Voilà, j'aimerais qu'on fasse une lecture, un simple verset, dans l'évangile selon Marc au chapitre 4 et le verset 3. Évangile selon Marc, chapitre 4 et le verset 3. Le titre de la méditation de ce matin, c'est « Favoriser mon environnement pour une croissance efficace ». Alors, que se cache-t-il derrière un titre aussi barbare ? Telle est la question. Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 3, où Jésus, la parabole du semeur, dit « Écoutez, le semeur sorti pour semer. » Le semeur sorti pour semer. Je crois, mes frères et sœurs, que le semeur, d'abord on peut remarquer que c'est le, il n'est pas dit que ce sont les semeurs, mais c'est le semeur, c'est-à-dire Jésus, qui est sorti pour semer une graine de vie dans les cœurs. Cette graine de vie, il l'a semée dans le cœur des disciples, il l'a semée dans le cœur de l'Église primitive, et puis il a continué à la semer dans le cœur de tous ceux, de toutes celles qui étaient prêtes à le recevoir. Et il va même plus loin, puisque la Bible dit que la pensée de l'éternité est dans le cœur de chaque homme et dans le cœur de chaque femme. Cette graine de vie, cette notion de l'existence d'un Dieu, de l'existence d'un Dieu qui nous aime, de l'existence d'un Dieu qui est capable d'écouter nos prières et de changer notre vie, de changer notre cœur, est présent dans tous les cœurs. Le semeur est sorti pour semer. Jésus a semé l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et cette semence a germé et a porté du fruit. Lorsque nous continuons la lecture, nous voyons qu'il y a plusieurs terrains. Nous voyons qu'il y a le terrain des épines qui symbolise tous les soucis de la vie, la parole de Dieu qui tombe dans un cœur, et puis tout d'un coup, elle pousse, elle porte du fruit, et puis les soucis de la vie arrivent là-dessus, et puis, pouf, il reste plus rien. On regarde plutôt qu'à la graine qui a été semée, plutôt qu'à Jésus qui est le chef et le rémunérateur de notre foi, on regarde à nos soucis, à nos difficultés. Et finalement, toute la joie, tout l'espoir, toute l'espérance que cette graine de vie avait suscité commence à s'étouffer. Un autre terrain qui est semé, c'est le terrain du chemin sur lequel la graine tombe, puis là les oiseaux du ciel viennent la manger. C'est la graine qui tombe dans un cœur dur, ou plutôt moi je préfère dire dans un cœur qui a été piétiné. La bonne terre, le chemin c'est quoi ? C'est de la bonne terre qui a été piétinée. L'évangile tombe dans ce cœur, mais le problème c'est qu'auparavant le cœur n'a pas été labouré. La graine rebondit, et puis le diable vient et enlève cette graine de vie. Vous savez, nos souffrances peuvent nous empêcher de recevoir l'évangile. Parce qu'on a souffert, parce qu'on a été meurtri. Alors, tout d'un coup, ça devient difficile pour nous d'appréhender cette vérité. Troisième terrain, c'est la graine qui pousse. Merci Seigneur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de racines. Il n'y a pas assez de persévérance. Et puis là, la chaleur vient et tout d'un coup, ouf, ça fait comme une plante quand on l'arrose pas. C'est l'image du chrétien ou de l'homme, de la femme qui reçoit l'évangile, qui croit également, mais aux premières épreuves, premières difficultés, il n'y a pas cette persévérance. Et puis le quatrième terrain, c'est le bon terrain. Ça pousse, et puis ça porte du fruit à chacun selon sa mesure. Nous connaissons cette parabole. Où est-ce que je veux en venir ? Je me dis que dans notre cœur, l'évangile a été semé. Et si nous sommes ici ce matin, pour la plupart, c'est que l'évangile a porté du fruit. Jésus a changé notre vie. Jésus a transformé notre vie. Jésus nous a permis de pousser par l'action de son Saint-Esprit. Jésus nous a permis de porter des fruits dignes de la repentance. Et aujourd'hui, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Et nous savons que le Dieu qui nous a changé une fois, il continue à nous changer. Il continue à nous transformer. Nous savons que le Dieu qui nous a donné de la joie, il continue à le faire. Nous savons que le Dieu qui nous a donné la paix, il n'a pas changé. Il reste et il demeure toujours le prince de la paix. Nous le savons et nous avançons. Et quelque part, cette graine, elle grandit. Et merci Seigneur. Mais vous savez qu'une plante, pour grandir, elle a besoin d'éléments extérieurs, elle a besoin d'un environnement bien spécifique, selon son type, selon sa race, selon son espèce, entre guillemets. Il y a des généralités, toutes les plantes ont besoin de lumière, parce qu'elles vivent au travers de la photosynthèse. Toutes les plantes ont besoin de terre, peu importe, on ne rentrera pas dans les nuances botaniques, les terres calcaires, etc., je n'y connais pas grand-chose. Toutes les terres ont besoin d'engrais à un moment ou à un autre, ont besoin d'une terre qui est quelque peu riche. Toutes les plantes ont besoin qu'on enlève les mauvaises herbes à côté. Je crois que pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, si nous voulons que notre croissance continue d'être efficace, si nous voulons, comme le dira Paul à Timothée, que nos progrès soient évidents pour tous, qu'on vienne toujours nous voir et qu'on dise « Ah, Patrick, qu'est-ce que t'as changé ? Qu'est-ce que t'as changé ? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? C'est extraordinaire ! Toi qui étais triste avant, mais tu continues à devenir de plus en plus joyeux !» Qu'on vienne voir Yann en disant « Et Yann, quelque chose ? Plus ça va et plus tu deviens aimable. Plus tu deviens gentil, c'est fabuleux ça ! C'est fabuleux ! » Si nous voulons que le fruit de l'esprit continue de grandir en nous, je crois que nous devons favoriser un environnement qui convient à notre croissance spirituelle. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, nous sommes influençables. Il n'existe personne qui ne peut pas dire « je ne suis pas capable d'être influencé ». On est influencé par toutes sortes de choses, par notre éducation, on est influencé par nos sens, par ce que l'on voit, par ce que l'on entend, on est influencé par nos fréquentations, on est influencé par ce qu'on nous dit, par ce qu'on pense, bref, on est influencé par toutes sortes de choses. Et finalement, on se rend compte qu'on est des éponges, que nous sommes des éponges qui prenons un petit peu de tout selon l'eau dans laquelle nous sommes plongés. Si nous sommes plongés dans une eau propre, nous aspirerons, nous épongerons de l'eau propre. Par contre, si nous sommes plongés dans une eau sale, eh bien, nous serons une éponge boueuse. D'où l'importance de choisir le terrain, de choisir notre environnement de manière à ce que la croissance continue à être évidente. Un petit peu comme l'église de Paul de Thessalonique à qui l'apôtre Paul dira « Eh bien, vous avez progressé ?» C'est bien, eh bien progresser encore, eh bien progresser encore. Et c'est là toute notre vocation, on devient vite des caméléons. Vous savez ces petits animaux, vous les mettez sur du jaune, ils deviennent jaunes. Et le Lévitique au chapitre 11 et au verset 30 nous explique que le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon sont des animaux décrétés impurs. C'est pas un chrétien n'a pas vocation à être un caméléon. Alors, la question que je me suis posée, c'est d'un côté, nous avons cette nécessité de croissance. D'un autre côté, nous avons un environnement qui nous pollue. Comment gérer tout cela et faire en sorte que notre croissance, elle continue à être linéaire et elle continue à être évidente. La première chose, le premier verset qui vous est venu à l'esprit, j'en suis certain, c'est lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 33, et je le prendrai dans la version parole vivante. « Attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. » Elle est intéressante, cette traduction. Première chose, oui, nous sommes une éponge, oui, nous sommes une plante, mais nous avons vocation à choisir dans quelle eau, dans quel terrain nous sommes plantés et dans quel terrain nous évoluons. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et de quelle manière ces mauvaises fréquentations travaillent-elles ? Le verset nous l'explique et nous le dissèque. Premièrement, attention de ne pas vous laisser séduire par des slogans. Les slogans, c'est quoi ? Les slogans publicitaires, vous en connaissez plein. Hein, vous savez, c'est ces choses qui vous restent dans le cœur, ces phrases choc qui vous restent dans le cœur, qui veulent tout dire et rien dire, mais qui nous vont bien parce qu'on peut y mettre à peu près ce que l'on veut. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit, là, je suis un peu embêté. Hein. Mais je suis sûr qu'il y en a certaines, hein, L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ça ne veut pas dire grand-chose, concrètement, mais c'est un pouvoir de communication qui est terriblement, terriblement fort. Ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Notre monde, la société dans laquelle on évolue, a toutes sortes de slogans, a toutes sortes d'idées préconçues dans lesquelles on peut rentrer ou on peut mettre ce que l'on veut. Dans les années 80, nous avons eu droit à « il n'y a pas de mal à se faire de bien », « il est interdit d'interdire ». Ensuite, ça a été une chanson qui est devenue très populaire, « on ira tous au paradis ». Bref, ce sont des choses qui sont très très larges, mais qui quelque part, eh bien, nous empêchent de nous épanouir et qui, quelque part, corrompent notre cœur, qui, finalement, empêchent notre croissance. Ces slogans brandissent souvent une hymne à la facilité ou à une forme de laxisme spirituel. Oh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis peut-être vieux avant l'âge, me direz-vous. C'est possible. Mais on s'est plus forcé de nos jours. On s'est plus forcé. Et la société nous apprend à ne plus nous forcer. Kleenex, on prend, on jette. McDo, chérie, on mange quoi ce soir ? J'ai pas envie. On va au McDo ? Ce sont des choses qui sont très simples. Ta femme te plaît plus ? Prends-en une autre. Il y a le divorce. Pas un souci. Un couple sûr de divorce, donc c'est forcément que ça doit être bien. Et quelque part, on évolue au travers de ces phrases faciles, au travers de ces phrases terriblement larges, qui quelque part viennent polluer notre cœur, polluer notre foi. Deuxième chose, deuxième élément que font ces mauvaises fréquentations, elles ruinent toute morale. Et ça fait penser forcément au texte de Paul aux Romains qui dit qu'ils ont changé le mal en bien. Ce qui était bien hier est devenu mal aujourd'hui. Ce qui était mal hier est devenu bien aujourd'hui. Nous le savons. Elle dégrade le caractère le plus résolu. J'ai cherché un petit peu ce que ça voulait dire dégrader. Ça veut dire affaiblir progressivement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout d'un coup, mais ce sont des petites touches, des petites pensées, des petites attitudes, des petites manières de faire, des petites manières d'être, qui finalement viennent dégrader notre foi, viennent dégrader notre relation, viennent dégrader ce que nous sommes, même le caractère le plus résolu, ce qui veut dire qu'il y a réellement un danger. Alors, quelles peuvent être nos mauvaises fréquentations qui sont susceptibles de dégrader progressivement ce que nous sommes au travers de slogans et d'idées faciles ? Premièrement, des fréquentations qui nous ramènent à la nostalgie du passé. La femme de Lot, on connaît bien ce récit. Alors qu'elle quitte Sodome, qu'est-ce qu'elle va faire ? La ville va être jugée et elle va se tourner et va jeter un coup d'œil quelque peu nostalgique. En arrière pour regarder une dernière fois la ville qui finalement ne lui déplaisait pas autant que ça. Là, immédiatement, elle va être changée en statue de sel. Vous savez, on peut jeter un regard nostalgique, on peut cultiver une pensée nostalgique au travers des fréquentations que l'on peut avoir. Et parfois, c'est un petit peu de la folie. Imaginez-vous un ancien alcoolique qui reste et qui demeure avec ses amis. Ah, il ne boira plus. Mais simplement, en étant avec eux, c'est une partie de lui-même qu'il garde, c'est une partie de son passé qu'il cultive. On peut jeter un regard derrière nous, en se disant, je ne le revivrai pas, je ne le revivrai plus. Et finalement, parce que la Bible me l'interdit, parce qu'aujourd'hui je suis un enfant de Dieu, mais simplement, je le vis par procuration. Je le vis au travers de la vie d'autrui. Et quelque part au fond de mon cœur, il y a cette envie de continuer à me réjouir dans ces choses-là. Deuxième mauvaise fréquentation, c'est celles qui font référence à un moment ou à un autre à notre souffrance. Parfois on est un petit peu masochiste, nous les bipèdes. On aime encore appuyer là où ça fait mal. Mais là encore, parce que S'il y a eu souffrance, ça veut dire qu'il y a eu attachement. Et ça veut dire qu'il y a eu arrachement. Et on avance ainsi. Et on avance ainsi en se disant que finalement, on a besoin de vivre encore un petit peu avec notre souffrance. C'est étonnant de voir à quel point la souffrance peut tenir chaud parfois. À quel point on peut y être attaché et lorsqu'elle se termine, eh bien elle nous manque. Faire part d'une expérience, j'ai eu mal au dos pendant 16 ans de ma vie. J'avais une double hernie discale. Et je souffrais nuit et jour, quasiment. Lors d'un temps de jeûne, à l'opérette, un de mes collègues a prié pour moi et instantanément j'ai été guéri. Aujourd'hui, je n'ai plus mal. Ça fait un mois et demi que je ne souffre absolument plus. Plus du tout. Vous savez quoi? Ce qui m'empêche de dormir parfois, c'est de... Je me réveille en me disant « je vais avoir mal ». Je n'ai plus mal. Je me réveille en me disant « je n'ai plus mal ». Combien d'hommes et combien de femmes sont ainsi? Avec, finalement, un attachement à une souffrance et des fréquentations qui rappellent cette souffrance. Troisième type de mauvaise fréquentation, c'est celle qui cultive un penchant mauvais. Elles ne seraient pas mauvaises pour Samuel, mais elles sont mauvaises pour moi. C'est étonnant, ça. C'est étonnant. Il y en a qui sont forcément mauvais. Être fréquenté Jézabel, ça vous aurait pourri le meilleur des hommes. Mais il y en a certains, il y en a certaines, qui ne sont mauvaises que d'une manière spécifique. Pour certaines personnes, parce qu'elles correspondent à certains penchants. Imaginez-vous deux personnes qui sont quelque peu dépressives ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Oh ben toi t'as ce problème là, oh ben moi j'ai celui-là, oh moi j'ai celui-là, oh moi j'ai celui-là, oh mais moi j'ai encore pire, oh mais moi je t'assure, moi j'ai encore pire. Mais c'est rien toi, regarde-moi ce que j'ai. Secours! Non. Je pense qu'il faut rechercher les fréquentations qui nous élèvent. Je vais pas bien? Bah, je vais voir quelqu'un qui pétille, quoi. Non pas pour éteindre sa joie de grâce, mais pour qu'elle me donne un petit peu son pétillement. Les mauvaises fréquentations nous corrompent au travers de slogans. Donc maintenant, quand vous entendrez des idées faciles lancées à la volée, vous vous méfierez. Et lorsque vous verrez que votre morale se dégrade, alors, eh bien, vous ferez attention. Mais c'est pas... Maintenant, il faut être équilibré. Ce n'est pas parce qu'un environnement peut être dangereux qu'il ne faut pas en avoir. Deuxième point. Pourquoi? Premièrement, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et c'est Sartre qui disait que l'enfer, c'est les autres. Mais les autres ne sont pas qu'un enfer. Hein, mais c'est souvent un moyen dont Dieu se sert pour parler. Si on vit reclus sur nous-mêmes, Dieu aura plus de mal à nous parler au travers de nos murs et de notre papier peint. Mais au travers des autres, au travers de la communion, au travers des relations que l'on peut avoir, finalement, alors, eh bien, Dieu nous parle. Combien de fois, ça m'est arrivé en cours, moi, même mes profs sont arrivés parfois à me donner des paroles de Dieu. Étonnant ça, sans qu'ils le sachent. Je citais l'exemple de ce pasteur qui a été relevé grâce à un oiseau. Combien de fois Dieu s'est-il adressé à nous au travers d'hommes, au travers de femmes? Et si on décide finalement de vivre en ermite, si on décide de vivre complètement coupé et reclus de la société, Dieu ne pourra pas utiliser le moyen privilégié qu'est l'Église, certes, mais que sont également les hommes et les femmes. Deuxième raison, c'est que les autres sont un excellent moyen de sanctification. Je vous bénis mes frères, mes sœurs, vous êtes un bon moyen de sanctification. Et je suis un bon moyen de sanctification pour vous. Vice-versa. Qu'est-ce qui me casse les pieds, celui-là? Mais non, il t'exerce à la patience. Oh, je lui mettrai bien mon pied là où je pense. Mais non, il t'exerce à la maîtrise de toi. C'est pas vrai? Les autres nous font grandir. Se frotter les uns aux autres, ça nous apprend énormément sur nous-mêmes. Ça nous apprend énormément sur ce que nous sommes et sur ce que nous ne sommes pas. Nous frotter aux autres, nous supporter les uns les autres, comme dira Paul aux Éphésiens, dans tous les sens du terme. C'est très formateur, parce que ça montre tous les progrès que nous avons à faire, alors que je suis sur le point de m'énerver, ou alors que je suis sur le point de ne plus être capable d'écouter quelqu'un. Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qu'elle me fatigue? C'est pas vous, c'est les autres églises, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est les autres pasteurs, moi je suis parfait. Hein. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, c'est pas normal ça. Donne-moi, s'il te plaît, ta compassion. Donne-moi ta compassion. Alors que nous sommes sur le point de, finalement, de faire quelque chose qui nous étonne. Parfois, nos comportements peuvent être étonnants. Seigneur, quel progrès il me reste à faire encore pour te ressembler. Parfois, je ne sais pas vous, mais je suis assez choqué par la dureté de cœur dont on peut faire preuve. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, Seigneur, tu n'aurais pas du tout réagi comme ça. Qu'est-ce que j'ai été dur? Qu'est-ce que j'ai été sec? Pardonne-moi, Seigneur. Là, il y a vraiment une repentance. Mais pourquoi? Parce que je me suis frotté aux autres pierres vivantes. Parce qu'il y a eu cette relation. Prenez un sportif qui s'entraîne seul et un sportif qui s'entraîne en groupe. L'émulation ne sera pas non plus la même. Les progrès ne seront pas du tout les mêmes. Et ça, c'est le troisième point, tout simplement parce qu'on s'apporte les uns aux autres. Parce qu'on se communique les uns aux autres. J'apporte et je reçois. Si je reste chez moi, si je me coupe du monde, alors je ne peux apporter ni aux chrétiens ni aux inconvertis. Et je vous renvoie à la prédication de ce dimanche dernier dont vous vous souvenez certainement. J'en suis certain. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes hors de notre salière. Alors il peut y avoir toutes sortes de fausses conceptions. Je me coupe, la première de ces fausses conceptions, c'est je me coupe de toute relation de manière systématique, et j'insiste sur le mot systématique, pour ne pas pécher. Alors, même si parfois il est nécessaire d'arracher, ce n'est pas toujours qu'il faut le faire. C'est lorsque l'on sent qu'il y a un danger, lorsque l'on sent qu'il y a vraiment une occasion de chute, ou alors un problème de croissance spirituelle, qu'il est nécessaire de le faire. Ce que Jésus veut, c'est que nous puissions veiller pour ne pas tomber en tentation. Je vis dans le monde, mais non pas selon l'esprit du monde, mais simplement je garde toujours mon cœur éveillé. Je garde toujours mon cœur prêt dans la prière. Je garde toujours mon cœur véritablement attentif au cœur de Dieu, de manière à être capable de discerner les peaux de banane, de manière à être capable de discerner les pièges, afin de voir un petit peu quels sont les problèmes qui peuvent m'arriver. Seigneur, s'il te plaît, durant cette journée, tu me guides, tu me protèges. Oui, je vais être à l'université, ça va être compliqué. Oui, je vais être dans cette réunion commerciale, ça va être difficile. Oui, je vais être dans ma famille et ça va être quelque chose de difficile parce qu'il y a une mentalité qui est particulière. Seigneur, donne-moi ta sagesse, accorde-moi ta grâce, que mon esprit soit véritablement en vigilance afin que je ne pèche pas contre toi, afin que je ne dégrade pas le témoignage, afin que je te glorifie. S'il te plaît, accorde-moi ta grâce. Deuxième fausse conception, je ne veux être sous l'influence de personne. Eh bien ça, je vous souhaite bien du courage. Nous sommes tous influencés, je l'ai dit quelque peu en introduction, et nous avons tous des influences diverses et variées. Le mari et la femme s'influencent. Je dis souvent, c'est pour plaisanter, que ma femme a réussi à en faire en 5 ans ce que ma mère n'a jamais réussi à faire en 20. C'est vrai. S'influence, l'un et l'autre. Puis je l'influence aussi, un petit peu moins, parce que les hommes, on sait moins s'y prendre. Vous voyez, j'ai pas perdu toute ma lucidité. Les parents influencent les enfants et les enfants influencent les parents. Les amis, on est tous sous influence. Donc ça ne sert finalement à rien de le nier en disant « Je ne veux être influencé par tout le monde, je suis le seul. » Et même si on y parvenait, vous savez quel serait notre pire danger ? C'est d'être influencé par nous-mêmes. L'apôtre Paul écrit aux Galates qu'en nous, il y a deux régimes, le régime de l'esprit et le régime de la chair. Et à partir du moment où je ne suis pas influencé par rien et par personne, eh bien, c'est le régime de la chair qui m'influence. Et je vous renvoie à Galates 5 pour voir les conséquences de l'influence de la chair. Colère, amertume, meurtre, débauche. Nous sommes automatiquement sous l'influence de quelqu'un. Je me souviens de cette jeune fille qui me disait « De toute manière, je ne suis sous l'influence de personne, il n'y a que Dieu qui peut m'influencer. » J'étais assis, heureusement. Et j'étais poli ce jour-là. J'étais de bonne humeur. Mais c'est une hérésie. C'est une hérésie. Alors, comment vivre ces choses-là ? Il est nécessaire de connaître nos zones d'influence. Ce que j'ai qualifié de zone d'influence. Georges influence Michel. Mais Georges, Michel connaît les qualités, les défauts de son homme. Et vice-versa. Je sais en quoi ma zone d'influence est limitée, je sais en quoi elle est bonne, et donc j'en tiens compte. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais je crois que le Seigneur nous appelle à faire preuve de discernement. Vous savez, on a l'exemple de Paul et de Barnabas. Paul devait beaucoup à Barnabas. Et Barnabas a longtemps influencé Paul, j'en suis certain. Je suis susceptible de penser, mais c'est moi qui le dis, que Barnabas a certainement essuyé beaucoup de plâtre qui était dû au caractère très tranchant de Paul. Puis un jour, il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu un dissentiment amer, nous dit l'Écriture, à sujet de Jean-Marc, qui avait abandonné Paul lors du premier voyage missionnaire. Il y a eu séparation. Ils connaissaient leurs limites. Ils savaient ce que l'un et l'autre pouvaient s'apporter. Et on sent au travers que le leadership avait été inversé pendant la première partie des Actes des Apôtres et était marqué Barnabas et Paul. Et à partir du moment où il est marqué Paul et Barnabas, la séparation est là. Barnabas ne pouvait plus apporter à Paul et Paul ne pouvait plus appeler à Barnabas. C'était terminé. Ensuite, on connaît le travail que va faire l'apôtre Paul. Il peut être dangereux d'être dépendant de quelqu'un. Prenons l'exemple de David et de Jonathan. Vous savez qui c'est. Jonathan, le fils de Saül. David, l'ennemi intime de Saül. Pourtant, ils s'aimèrent fort tous les deux. Ça a été un exemple d'amitié extraordinaire. Mais il arrive un moment où David ne peut plus rester dans le palais de Saül. Et ils vont se séparer. Si la dépendance et le lien affectif avaient été trop forts, que se serait-il passé ? David serait resté dans le palais de Saül et sa vie aurait été mise en danger. Vous savez, n'oublions jamais, mes frères et sœurs, et je vous le dis de tout mon cœur, avec toute la douceur dont je suis capable. Rien, aucune amitié, aucune relation, aucune chose sur la terre ne vaut le prix de notre âme. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? David et Jonathan, rupture totale, ils ne se sont plus revus. Simplement à la mort de Jonathan et de Saül, son père, David a composé le cantique de l'arc. Comment des héros sont-ils tombés? Toujours dans le cœur. Mais la vie a séparé. crois, mes frères et sœurs, que ce sera la conclusion. Peut-être. Je dois choisir mon environnement de manière à faire en sorte que la graine qui a été semée en moi puisse grandir, porter du fruit. Mais je ne dois pas fuir les difficultés. Il y a un moment où un arbre, la plante, vous pouvez la cultiver dans un pot. Et vous pouvez la mettre dans un pot. Vous pouvez la garder à l'intérieur d'une serre. Il n'y a aucun problème. Mais si c'est un baobab, et vous êtes de beaux baobabs, splendide, extraordinaire. Je ne sais pas si c'est bon un baobab, mais bon, prenez-le comme un compliment. Mais il arrive un moment où le baobab, il peut plus tenir dans la serre. Et il faut qu'il soit planté dehors, là où il pleut, là où il y a du vent, là où il y aura des méchants enfants qui viendront mettre des cœurs sur, graver des cœurs sur son tronc, là où il y aura des fourmis qui lui courront le long du tronc, là où il y aura des oiseaux qui viendront piquer ses branches. Mais c'est finalement là qu'il grandira et qu'il deviendra beau. Et pour grandir dans, et évoluer dans ce monde-là, et être les beaux baobabs que nous devons être, je pense qu'il y a quelque chose d'important qui se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 4 et au verset 7, lorsqu'il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dans l'environnement qui est le mien, finalement la force, ma force dépend de celui avec qui je marche. Si je marche avec moi, tout seul comme un grand, je ferai toutes sortes de boulettes. Je mettrai ma main sur les plaques, là où ça fait mal. Je me tromperai dans mes choix. Je souffrirai, je fonctionnerai aux instincts et je dirai comme l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Alors j'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin de savoir comment faire pour éviter de souffrir. D'où l'importance de me soumettre à quelqu'un, de me soumettre à mon Dieu, de me soumettre à une autorité spirituelle qui veut mon bien. Il est dit du roi Ozias, deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, verset 5, « Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Et au verset 16 de ce même second livre des Chroniques, au chapitre 26, il est dit « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, il pécha contre l'Éternel son Dieu, il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. » Tu n'as pas le droit de le faire. On voit que du temps de Zacharie, tant que Zacharie a été là, c'était bon. Quand il a cessé de marcher aux côtés de cet homme, toute sa grandeur humaine n'a pas suffi, il est redevenu petit aux yeux de Dieu. L'autorité de la Bible qui nous empêche d'être aveuglés et qui nous permet de naviguer au milieu des icebergs de ce monde. Je suis très poétique ce matin. Elle oriente notre vie. Et quand vous priez, c'est pas en vain. Seigneur, guide ma vie. Ne vous inquiétez pas, il le fait. Il le fait. Et au travers des Écritures, il dit non, mets pas ton doigt là. Va pas ici. Attention devant, il y a un danger. Même si ça fait du mal à notre volonté, c'est pour nous une sécurité. Elle nourrit notre volonté spirituelle. J'aime bien ce terme. Elle me donne des raisons de faire ce qui doit être bon, de faire ce qui doit être fait. J'ai la force de faire, j'ai la force de dire non. Je sais pourquoi je dis non, je sais pourquoi je le fais ou je ne le fais pas. La parole de Dieu est supérieure à ce que nous voulons ou nous désirons, mais c'est toujours pour notre bien, toujours. Puis surtout, elle nous parle de l'amour de Dieu pour nous Et la seule raison valable pour renoncer à quelque chose, c'est parce que nous aimons. J'aime mon Dieu. Psaume 143 au verset 10 dira « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise dans ta voie droite. » Ça peut être notre prière. « Enseigne-moi, Seigneur, à faire ta volonté. » Que le Seigneur nous aide. Alors en conclusion de la conclusion, puisque vous avez bien compris que c'était la troisième partie, je crois que nous avons vocation à toujours grandir, à toujours évoluer, à ne pas fuir les influences, mais à les choisir, à discerner, à analyser les choses, avec douceur, sans esprit de jugement, mais juste pour notre sécurité. Nous avons vocation à discerner nos failles, à être capable de dire « voilà là où je suis fort, voilà où je suis faible », et de mettre les deux en adéquation. Être capable de veiller à ce que des slogans ne dégrade pas ce que je suis. Ne casse pas ce que je suis. Alors nous serons un magnifique arbre, planté et arrosé par la présence de Dieu. Et nous serons comme cet arbre du psaume premier qui dira, eh bien, qu'il donne son fruit en sa saison, que tout ce qu'il lui fait, lui, réussit. Que son nom soit béni. Amen.